7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle éducation comme chaque vendredi. Gros plan sur la réussite scolaire des enfants d'enseignants. Si vous connaissez des enfants de profs en total échec scolaire, alors surtout vous nous téléphonez, hein, parce qu'ils sont très rares. En France, les statistiques sont édifiantes. Ils redoublent moins, ils sont plus souvent dans des filières scientifiques. Et à l'ENA, presque la moitié des futurs hauts fonctionnaires a un parent enseignant. C'est le dernier ascenseur social qui fonctionne encore pour la classe moyenne. Édouard Philippe a eu deux parents enseignants. Emmanuel Macron dit qu'il a appris à aimer le travail scolaire avec sa grand-mère institutrice. Et pourtant, les profs disent n'avoir aucune recette avec leurs enfants. Alors, comment font-ils? Si vous êtes prof ou enfant de prof, évidemment, c'est à vous de nous répondre. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 70 71 71 84 22 71 71. Vous êtes très nombreux à nous poster des messages pour nous révéler le secret de la réussite des enfants de profs. Et pour les autres, eh ben on va voir avec nos invités justement que finalement c'est un mode d'emploi à la portée de nombreux parents, même s'ils ne sont pas enseignants. Guillemette Faure, bonjour.
Bonjour.
Louise Touré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste toutes les deux, vous publiez « Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux » aux éditions Les Arènes. Guillemette Faure, vous êtes fille d'institutrice,
oui.
Vous-même, donc vous avez beaucoup souffert.
Elle est devenue institutrice un peu sur le tard, mais bon, j'ai connu d'abord après.
Et vous êtes journaliste à M, le magazine du journal Le Monde. Louise Touré, vous êtes présentatrice et productrice de l'émission « Être et savoir » sur France Culture.
On s'intéresse beaucoup à l'école dans
Exactement,
cette émission.
Exactement, voilà. Et, mais vous n'êtes pas fille d'enseignant vous-même.
Pas du tout.
Voilà, vous êtes une rescapée. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On attend vos appels et d'ici là, je vais lire aussi quelques-uns de vos commentaires et témoignages postés sur les réseaux sociaux.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Fadoul a 21 ans et il nous écrit de Marois dans le nord du Cameroun. Il est en licence 2 en histoire. Il dit « Ma mère était prof. Elle était souvent à mes côtés. Elle partageait ses connaissances sur tous les sujets, mais surtout ceux qui étaient liés à l'école. Ça me motivait. Et d'ailleurs, quand je l'ai perdue, mon père, commerçant, n'a pas su m'accompagner. Mes notes ont baissé. » Ça, c'est intéressant parce que les commerçants peuvent gagner plus d'argent, par exemple, que les professeurs.
Oui. Alors, si on va aller dans le détail, les enfants de commerçants sont en général bons, sont meilleurs en calcul mental.
Là, c'est pas une idée reçue, c'est vrai, c'est vérifié, ça.
Mais non, mais c'est intéressant. Enfin, ce qu'il dit du partage, c'est effectivement une des choses qu'on a le plus entendu. Partager, ça veut pas dire aider, justement.
Ouais, on va en parler. Oumar est à Dakar. Il nous dit les enfants de profs évoluent généralement dans un environnement basé sur le respect d'un certain nombre de principes. Moins de télé, moins de distractions et de sorties inutiles. Respect des heures d'études, sans oublier le travail du parent, prof, à la maison. Mon enfant imite déjà ma façon de tenir un stylo.
C'est extraordinaire. J'adore, c'est trop mignon. Mais oui, toutes les sorties possibles. Aucune sortie n'est inutile si on en parle, si on s'interroge sur ce qu'on peut en retirer, en apprendre en fait.
Moussa est à N'Djamena au Tchad. C'est mon grand frère qui est prof d'anglais qui m'a élevé à l'école élémentaire. Dès que je rentrais, je devais reprendre tout ce qu'on avait vu en classe avant de manger. C'est ce qui m'a permis de passer directement du CM1 à la 6e. Je précise qu'il y a un examen à l'entrée en 6e. Si les enfants des profs réussissent souvent mieux, c'est parce qu'ils sont encadrés et suivis. Et puis il y a Nadie à Libreville, prof de français. Non, pas du tout d'accord. Moi, je suis derrière ma fille tous les soirs. C'est vrai qu'elle est intelligente. Elle n'aime pas l'école, alors qu'elle est prof, hein, elle-même. Je dois tout vérifier dans toutes les matières. Je dois vérifier les leçons, les devoirs à rendre. Elle n'aime pas la lecture, ma fille. Les activités intellectuelles ne l'intéressent pas. Dès que je relâche la pression, c'est la catastrophe. Pour y arriver, je me dis que non seulement c'est mon devoir de mère, et surtout que je ne peux pas concevoir d'encadrer les enfants des autres et laisser ma fille. Et là, en ce moment, elle me demande « Maman, c'est quartier libre, non ?»
Non, mais c'est pas génétique, mais peut-être que si cet enfant n'avait pas une maman enseignante, ce serait plus compliqué pour elle. Après, je ne connais
pas cette famille.
On s'est
aussi rendu compte que ce que les parents de profs, quand des parents de profs disaient « Non, non, c'est pas du tout vrai, j'ai des contre-exemples », ce qu'ils appelaient un contre-exemple de réussite réussite scolaire, pour beaucoup d'autres parents, ça irait tout à fait très
c'est
bien.
C'est de devenir un chanteur à succès,
non, mais
par exemple.
C'est-à-dire, enfin, par exemple, quand on pose la question qu'est-ce que vous attendez de votre enfant, les parents d'enseignants sont plus nombreux à répondre qu'ils soient en tête de classe, alors que pour les autres parents, souvent, ils préfèrent plus facilement. Enfin, ils attendent qu'ils soient dans la moyenne de la classe. Donc, ils mettent la barre plus haut, donc ils sont déçus plus facilement.
Louise Touré, en tout cas, tous ces témoignages que je viens de lire, principalement d'Afrique subsaharienne, ça veut dire que ce phénomène des enfants d'enseignants, tout le monde en a conscience, un peu partout, finalement, dans le monde ?
L'école, c'est quand même une réalité mondiale. Hein. Il y a peu de pays dans lesquels on ne vise pas au moins le secondaire. Je crois que c'est un gros enjeu hein, pour l'Afrique subsaharienne avec une explosion démographique qui fait que, oui, pour les élèves dans des conditions qui sont parfois moins faciles qu'en France, il faut parvenir à cet enseignement secondaire. Donc oui, un enfant dont le parent sera enseignant, c'est une chance de plus pour non seulement aller à l'école, mais ensuite arriver à suivre dans ces classes parfois surchargées, etc.
Quand on dit enfant de prof, de quel prof vous parlez-vous dans votre livre, toutes les deux?
C'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est ce que beaucoup d'enseignants nous ont dit. Mais enfant de prof, ça ne veut rien dire.
Oui, de si c'est à prof de fac.
De l'instituteur ou de l'institutrice qui va être épouse de cadre ou prof de fac. Et bien pourtant, on observe quand même le même phénomène, quel que soit le type d'enseignant. Et on cite aussi un chercheur irlandais qui a travaillé sur les données anglaises et sur les données irlandaises et qui observe aussi la même chose. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas tant le niveau de diplôme qui va faire la différence que l'espèce de démarche par rapport à l'éducation. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'exemple qui nous a été donné tout à l'heure de celui qui a été élevé par son grand frère prof d'anglais. C'est que c'est finalement, peu importe, c'est qu'il est, il est prof d'anglais et alors que lui, il est censé à main. Donc, c'est pas la compétence en anglais qui a fait la différence, c'est l'attitude par rapport à l'école.
Alors,
et
je suis sûre qu'il a parlé de cette attitude.
Et je suis sûre qu'il a vu son grand frère travailler et qu'il a aussi appris comme ça, parce qu'un grand frère prof, c'est un grand frère qui a dû travailler devant lui.
À la maison,
ouais,
donc. Vous nous appelez les voisins et les voisines, on a envie d'en discuter avec vous de vive voix. Numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp pour nous appeler gratuitement. Je vous propose un témoignage maintenant. Hervé, 32 ans, il travaille en région parisienne. Il est né, il a grandi au Gabon, coincé entre deux parents enseignants. Il a raconté sa vie et son martyre scolaire à Alice Milo.
J'ai grandi à Libreville au Gabon, dans une famille de 7 enfants. Ma maman était professeure d'anglais au collège, et mon père était professeur de mathématiques au lycée. On a eu la chance d'être, moi, dans le même collège où était ma mère, et dans le même lycée où était mon père. Ce qui fait qu'ils avaient les résultats des bulletins avant même que nous soyons au courant, et ils avaient le résultat du conseil de classe. Lorsqu'on avait été un petit peu bavard en classe, et ben, les professeurs qui sont leurs amis ben, partaient faire un rapport d'incidence en cours. Cet aspect était plutôt négatif. Enfin, moi, je le vivais de façon négative parce que je ne pouvais pas être un enfant comme les autres. Tous mes copains au quartier avaient leurs parents qui travaillaient dans l'administration, dans des entreprises privées et pouvaient donc avoir plus de temps pour aller jouer, s'amuser. Et ben, nous, on devait être collés au cahier, collés aux révisions. Lorsqu'on avait une mauvaise note, il fallait travailler deux fois plus pour compenser. Lorsque tu es fils de prof et que tu rentres, tu dis ben, « j'ai pas de devoir pour demain », tes parents vont dire ben, « non, moi j'ai donné des devoirs à mes propres élèves, tu vas pas me faire croire que toi tu n'en as pas ». Ce qui n'était pas le cas pour les autres qui avaient la possibilité de dire aux parents « j'ai déjà fait mes devoirs » ou alors « le professeur n'est pas venu, n'a pas donné de devoirs et ça passait crème ». Du coup, nous on était vraiment beaucoup plus surveillés, pour ne pas dire fliqués par rapport à ça. Moi je le vivais comme une double peine, de devoir travailler, d'être fatigué et en plus de devoir assurer la réputation des parents parce que derrière cet acharnement, il y a surtout ça. Le côté, ah oui, c'est le fils de monsieur tel qui est professeur dans telle classe, donc cet enfant a intérêt à avoir de bonnes notes. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'inconsciemment les parents, ben, ils serraient la vis parce qu'il y avait cette réputation à tenir. Et moi, je ne comprenais pas beaucoup les maths, alors que mon père était professeur de maths.
Et alors, est-ce que vous avez fini par être bon en mathématiques ou est-ce que vous avez plongé votre père dans une honte terrible ?
Alors, je pense que mon père est passé par toutes les phases et il a d'abord eu un désespoir profond, puis une honte terrible et ensuite, je crois qu'il a arrêté d'y croire. Et d'ailleurs, j'ai eu mon bac avec un 4 en mathématiques et je me souviens que mon père... au début, me donnait des cours de rattrapage à la maison, des cours de soutien. Et malgré cela, je faisais toujours un blocage par rapport aux mathématiques. J'ai jamais aimé les chiffres.
Vous parlez de blocage parce que pour vous, c'est un blocage psychologique.
Je pense, avec le recul, que c'était un blocage psychologique parce que je trouvais que mon père était dur d'une certaine façon et j'avais peur, moi, de le décevoir. Et cette peur me bloquait, m'empêchait de comprendre ce qu'il m'expliquait. Peur de recevoir son coup de bâton. C'était une autre époque où on nous corrigeait beaucoup plus que maintenant.
Finalement, son aide était contre-productive.
Oui, son aide était contre-productive parce qu'elle était acharnée. Les 5 précédents enfants, donc mes 5 frères et sœurs précédents, étaient tous plus ou moins bons en mathématiques. Ils ont d'ailleurs tous fait des filières scientifiques. Et moi, j'ai été le premier à faire une filière littéraire. En sachant que ma maman était professeure d'anglais. Ma mère m'a très vite mis à des cours de soutien aussi d'anglais hors milieu scolaire. J'ai bénéficié de cours de soutien gratuitement grâce à leur entourage, grâce aux amis de mes parents. J'ai passé un diplôme qui s'appelle le TOEFL et le TOEIC.
Ce sont des diplômes internationaux de reconnaissance de l'apprentissage de la langue anglaise.
Exactement, et j'ai passé ces diplômes assez tôt grâce à ma mère qui s'est rendu compte que l'anglais était par exemple le langage mondial des développeurs informatiques. Et à l'époque, Internet arrivait de manière massive sur le continent.
On est là dans les années 2000 à peu près.
Ouais, au début des années 2000. À ce moment-là, donc, ma mère qui en a conscience se dit bah, « Ce serait bien que tu fasses de l'anglais parce qu'il y a beaucoup de termes anglophones dans les milieux informatiques. » Et comme moi, je m'intéressais beaucoup à l'informatique, et, je me suis mis à l'anglais spécifiquement pour ça. Mais l'approche de ma mère a été, je veux dire, visionnaire. Et ça m'a beaucoup aidé dans ce que je fais aujourd'hui. On travaille beaucoup dans des secteurs où on est amené à être avec des anglophones, des bilingues surtout.
Sur les 7 enfants de votre famille, tous ont réussi?
Oui, et d'ailleurs, ma petite sœur, qui est la dernière, est devenue médecin. C'est un rituel chez nous. On a les diplômes qui sont affichés sur les murs de chaque enfant. Donc, je l'ai tenu à avoir ce master pour eux. Et je pense que c'est une fierté aussi pour eux de dire, bah voilà, mon fils a fait ça, ma fille a fait ça. Et c'est un peu grâce à nous.
Milliards de voisins, c'est maintenant.
Alors, une belle histoire, l'histoire d'Hervé, ou pas, après la souffrance, un beau dénouement.
Mais je trouve qu'il y a plein de thèmes, effectivement, qu'on a entendu. Alors, par exemple, le fait qu'il dit le fait de ne pas être anonyme, de ne pas être un élève anonyme comme les autres, même si ça lui a pesé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas forcément dans le fait qu'il va être repéré, mais il le sait qu'il peut pas être disparaître. Le fait qu'il mentionne aussi le fait que les profs ont beaucoup d'amis profs. Quand il dit « mais les amis de mes parents étaient profs », donc ça veut dire qu'entre eux, il parlait d'éducation et que ça faisait partie du quotidien dans lequel il a grandi.
Ouais, vous le dites d'ailleurs plus que dans d'autres
et
métiers,
là aussi,
on se fréquente
quand on dit,
entre profs.
Et son idée de la déception de pourquoi ça n'a pas marché, c'est simplement parce qu'il a été littéraire. Au lieu de faire des études de maths, il a l'impression que ça ne s'applique pas à lui. Ce qui est quand même complètement extraordinaire.
C'est la réussite
alors
d'une
c'est
famille
réussite.
De 7 enfants.
Oui, exactement,
quand même,
oui.
Et c'est là qu'on est quand même admiratif, même si les méthodes éducatives paraissent dures, parce que élever 7 enfants, même quand on est enseignant, ça doit être forcément difficile. On retient qu'il parle d'aide gratuite et de cours particuliers qui sont donnés un peu par les amis, aussi par sa mère, hein, qui est prof d'anglais. Et c'est ce qu'on a noté dans le livre, c'est que le recours à ces aides payantes, qui est particulièrement important en France, on est recordman d'Europe, hein, des cours particuliers via plein d'entreprises.
Sur le continent africain aussi, hein, il y a un vrai business des répétiteurs privés, je
peux
vous dire.
On voit des publicités dans le métro, il y en a partout dans le monde. Après tout, des cours particuliers, c'est un business, comme vous le disiez. Et donc, les enseignants, ils ne peuvent pas forcément se les payer, ces cours particuliers, parce que ça coûte très cher. Et parce qu'aussi, ils savent que, en fait, quand on soutient un enfant dans son travail à la maison, en lui donnant plutôt des méthodes que des solutions, parce que c'est ça, en fait, c'est donner le goût du travail, des méthodes pour réviser, aller chercher ce qu'il y a dans le cours et pas prendre forcément une explication alternative qui serait donnée par un intervenant extérieur. C'est beaucoup plus efficace et en plus, c'est gratuit.
Et tout de suite, on écoute un message qui a été posté sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. On parle bien de la réussite des enfants de profs aujourd'hui chez 7 milliards de voisins.
Bonjour les voisins et les voisines, je suis Eric Parfumvogue depuis le Cameroun. Il faut dire que je suis fils d'une institutrice. Certains de mes camarades, à un certain moment, pensaient que nous sommes toujours premier parce qu'on nous glissait des sujets d'examen à la veille de la composition. Ma maman, pour éviter de telles polémiques, s'était jurée de ne pas nous tenir et nous motiver de temps en temps. Et nous nous devions de lui faire honneur parmi ses collègues. C'est lorsque nous sommes arrivés au secondaire où nous n'avions aucune connaissance, où maman n'avait aucune relation, que nos camarades ont fini par comprendre que c'est la méthode de travail qu'elle nous avait inculquée qui faisait notre force.
Guillemette Faure, Louise Touré, vous publiez donc Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux. Ça fait partie des idées reçues qu'on a tous sur la réussite des enfants
quand
de profs.
Quand on a commencé ce livre, à chaque fois qu'on interrogeait des gens, ils commençaient par nous dire « Ah non, mais de toute façon, c'est évident, tout le monde le sait, pourquoi ?» Et alors derrière, on avait tout le catalogue des explications clichés sur « ils connaissent les sujets avant les autres, leurs parents ont tous les codes, leurs parents leur refont la classe à la maison. » Et en fait, rien de tout ça ne s'avère vrai. Les solutions... En fait, parce que...
Et je pense alors, que si on reprend, par exemple, dans les idées reçues, il y a le parent se transforme en répétiteur privé à la maison.
Mais non, mais en fait, le fait qu'une enseignante de maternelle ne connaît évidemment pas les programmes scientifiques
poursuivre
de première ou terminale, lycéen, ouais. et ça marche encore. Donc ça prouve que ce n'est pas une question de matière et de discipline.
Mais alors justement, comment elle fait l'instit en maternelle poursuivre son fils qui est en maths au lycée?
Eh bien, elle ne le suit pas. Elle l'a autonomisé depuis la maternelle, justement. C'est qu'on apprend aux enfants à faire des choses, à s'occuper de leurs affaires tout seul. Alors, ça commence par apprendre à faire ses lacets, mettre son manteau tout seul. Ça, c'est des trucs de tout petit. Hein. On leur apprend à se repérer dans le temps. Voilà, tu fais tes devoirs. À telle heure, on ira se laver. Et puis, les devoirs, c'est entre cette heure-là et cette heure-là. Et tu te débrouilles. Autonomiser un enfant, c'est soit en tant que parent se soulager beaucoup, et lui permettre d'être responsable par rapport à ses apprentissages, et donc que sa réussite ce soit la sienne. On est beaucoup plus fiers d'avoir réussi par soi-même, d'ailleurs, que de s'être fait aider par ses parents. Mon père, il me faisait mes exercices de maths, par exemple. Ça sert à rien, on n'apprend rien, même si c'est cool d'arriver avec un exercice fait en classe. Ça, les parents enseignants, ils le comprennent tout de suite. Donc, tout est à la fois dans la méthode, on l'a dit, mais aussi pour l'enfant, de lui apprendre à se débrouiller seul, c'est la clé. Et ça s'apprend tout petit.
Et surtout, l'institutrice qui comprend rien aux exos de maths de son fils en première scientifique, par exemple, hein, elle va pas se dire « Ouh là là, je suis complètement larguée ». Il y a une autre relation à ce qu'on ne connaît pas, non, aussi. Il y a moins de peur panique de la part d'un parent enseignant.
Oui, parce que on montre justement qu'en fait, les parents enseignants passent moins de temps que les autres parents à faire les devoirs des enfants. Mais en revanche, ils utilisent beaucoup plus le reste du temps pour transmettre des occasions d'apprendre. Il y a aussi tout ce que eux ne font pas. Tout à l'heure, Hervé parlait du fait qu'ils ne pouvaient pas les jouer, etc. Aujourd'hui, par exemple, les enfants d'enseignants regardent beaucoup moins les écrans, ont des heures de coucher beaucoup plus structurées que les autres parents.
Donc, on dit beaucoup que les enfants d'enseignants, enfin les parents, profs, connaissent les bonnes filières pour les orienter, etc. On l'a entendu dans le témoignage d'Hervé, sa mère lui dit « fais de l'anglais parce que comme tu aimes l'informatique, c'est le démarrage d'Internet, etc. » Est-ce que pour autant les enseignants connaissent les codes de l'éducation nationale, les classes où il faut aller? Est-ce que c'est ça qui est déterminant dans la réussite des enfants?
Justement, ce qui est très intéressant, c'est dans l'idée de qu'est-ce que c'est une bonne filière. Hervé, il n'a pas parlé du nom de l'école ou du nom de l'université dans laquelle sa mère a voulu le faire entrer. Sa mère, elle a raisonné en termes d'apprentissage, c'est-à-dire l'anglais, c'est bien. Elle n'a pas dit, faut C'est ça, faut faire les pieds et les mains pour rentrer à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que c'est des parents qui font plus attention au fait qu'il y a des bonnes filières et des choses intéressantes à apprendre à peu près partout, plutôt que de miser sur tel ou tel établissement en priorité.
C'est se saisir de ce qui est disponible dans son école comme option, par exemple dans les choix de langue, ça peut être dans les activités extrascolaires aussi. On sait que la musique, par exemple, c'est une activité qui est extrêmement bénéfique pour les apprentissages. C'est vrai que ça va être des choix. Alors, c'est des choix un peu de la bourgeoisie, hein, pour parler de la France que je connais mieux, et que ça va parfois permettre d'intégrer une classe CHAM, une classe musique au collège. Donc, on va rester dans un collège normal, mais avec cette classe, parfois même si on est mélangé aux autres élèves, c'est toujours un peu une prime à la réussite. Voilà, ça passe par plein de petites choses comme ça.
Alors là, on a démarré finalement dans cette émission en parlant de choses très concrètes dans l'apprentissage, dans la façon d'élever ses enfants. Mais il y a quelque chose sur laquelle vous insistez beaucoup dans votre livre, et je dirais qui est plus davantage d'ordre philosophique, plus difficile à cerner. C'est une transmission sur les valeurs de l'école. Plus globalement, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Déjà, l'adhésion à l'idée d'éducation, quand Hervé raconte le diplôme de sa sœur qui sont accrochés au mur, on comprend qu'on est dans un endroit qui valorise l'éducation. Et l'idée que, effectivement, nous, on s'est rendu compte, par exemple, que les enfants d'enseignants, les parents enseignants ne critiquent pas les enseignants de leurs enfants devant eux. Et ça, c'est par exemple, en termes d'adhésion, c'est extrêmement important. C'est que quand on ne critique pas enfin, quand on ne laisse pas un enfant dire « oui, mais je me suis planté, mais c'est parce que mon prof est dépressif », enfin, ou sortir n'importe quelle excuse, en fait, quand on lui dit « non, on ne le laisse pas s'excuser via ses enseignants », c'est une manière de lui dire « c'est toi qui es en charge de ton éducation, tu ne vas pas toujours choisir les profs que tu auras, donc c'est à toi de te débrouiller avec les enseignants qui vont tomber sur ton chemin ».
Même si l'enseignant n'en pense pas moins, enfin, le parent n'en pense pas moins sur l'enseignant de son fils. Il va pas le dire, il va pas en parler.
Bah, en fait, c'est comme se disputer devant ses enfants quand on est parent. C'est toujours contre-productif. On fait dévaloriser l'autorité d'un éducateur. C'est pas bon pour l'enfant. Après, il y a une autre valeur. Il y en a plein, hein, des valeurs. Mais il y a une autre valeur, et c'est extrêmement important, c'est parier sur l'éducabilité. C'est-à-dire, on pense que son enfant est intelligent et que d'une manière ou d'une autre, bien sûr, il pourra apprendre et bien sûr, il pourra réussir. Même si la réussite, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est complètement évident. Parier sur l'éducabilité des enfants, c'est ce qui manque parfois au système scolaire en lui-même, à l'école. C'est-à-dire que parfois, les enseignants, parce qu'ils ont tellement d'élèves, parce que c'est difficile, voilà, ils vont sentir que ça ne va pas être possible de faire réussir toute la classe. Mais quand c'est son propre enfant, il faut y croire. Parce que ça, c'est tout à fait porteur. C'est-à-dire parier sur le fait que l'enfant pourra réussir, c'est le faire réussir
Le père d'Hervé qui témoignait tout à l'heure, ne se dit pas, bon, bah, comme d'autres parents diraient, celui-là, il est nul en maths, donc on laisse tomber. Jusqu'à la fin, il continue à croire que son fils va pouvoir décoller en maths.
Et ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne pas pour les maths, mais effectivement, la fratrie réussit
ça
extrêmement bien.
Ça marche toujours d'une certaine façon.
Mais tout de même, là, vous semblez un peu faire l'impasse dans votre livre sur le ras-le-bol actuel des enseignants en France, les critiques qu'ils formulent eux-mêmes à l'égard du système de l'éducation nationale. Ça transpire forcément à la maison, non, depuis quelques années, quand même.
Alors moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'on fasse l'impasse dessus, parce que notre dernier chapitre, justement, c'est là-dessus. C'est sur le fait que des enfants d'enseignants qui ne sont pas devenus enseignants expliquent effectivement qu'ils ont eu une trajectoire avec une mobilité verticale, mais avec des parents qui leur disaient surtout ne deviens pas enseignant parce qu'ils avaient l'impression d'un déclassement. Mais ces parents-là qui leur disent surtout ne fais pas ce que je fais parce que c'est trop dur.
L'école c'est génial mais ne deviens pas enseignant. C'est quand même une injonction paradoxale.
On cite une fille d'enseignant qui dit qu'elle a vécu ça comme l'impression d'un métier avec une terrible abnégation. Mais en même temps, ces parents-là disent quand même que pour échapper à ce métier, ce sur quoi ils parient, c'est l'éducation. C'est-à-dire que le fait que leur métier soit mal considéré, ça ne les fait pas douter des vertus de l'éducation. Ça les fait douter de l'intérêt d'être prof aujourd'hui.
Allez, on repart au standard. On accueille les parents de profs ou les parents profs qui nous parlent de la façon dont ils éduquent leurs enfants. Mais comment font-ils pour que leurs enfants réussissent mieux que les autres alors que... ils ont souvent moins d'argent que les cadres. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins et la planète se barre.
Bonjour, c'est Olivier Kisauvé depuis Bukavu, République démocratique du Congo. Je suis un fils de professeur. Mon père est professeur agrégé en français dans l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Alors, mon père
m'a toujours poussé à aller plus loin. Hein. Ici à la maison, quand j'avais 60%, il me disait toujours non, ça c'est rien, tu peux faire mieux. Et je me forçais toujours à avoir 70%. Et là encore, il me disait, je peux faire mieux, je me forçais pour pouvoir avoir 77, 76, pourquoi pas 80. Il les faisait d'une manière parentale, d'une manière gentille, il faisait d'une manière pédagogique, il savait comment me stimuler. Il n'a jamais vraiment été trop dur, mais je pouvais comprendre qu'il voulait que je donne le meilleur de moi-même.
Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Olivier donc, sur la pression des notes, hein, d'une certaine manière?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il finit pas sur une note, mais sur le meilleur de moi-même. Je trouve que c'est...
Oui, mais avant, il y a la pression. Tu pourrais faire mieux, tu pourrais avoir 80%.
Non, mais en fait, le truc, c'est pas tellement... Enfin, les enfants d'enseignants, c'est pas tellement sur le chiffre en lui-même que d'avoir des parents pour qui la note n'est pas la fin d'une séquence, c'est-à-dire, bon, ben voilà, ta note, c'est ça, le trimestre prochain, tu essayes de faire plus, mais des parents qui essayent de comprendre de quoi la note est faite. Et quand il manque des points, de se dire sur quoi tu les as perdus, ces points-là, et qu'est-ce qui te manque maintenant ?
Et ça, c'est toute la différence, parce que la note, c'est quand même le centre du conflit familial autour de la scolarité aujourd'hui.
Alors oui, la note, elle génère énormément d'incompréhension. C'est vrai que c'est à la fois bon, un indice, et en même temps, ça masque... Il faut regarder hein, quelles sont les lacunes, où est-ce qu'on a échoué, est-ce qu'on n'a pas eu le temps, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, et y remédier. Moi, ce que je retiens, c'est le goût de l'effort. C'est comme en sport, mais c'est difficile de valoriser l'effort intellectuel. C'est pas juste du travail pour bachoter et tout, c'est pour comprendre. Bah, en fait, c'est un des plus beaux efforts qui soit. Donc ça, il faut arriver à le faire passer. Alors bon, parfois, c'est un petit peu conflictuel. C'est vrai que c'est mieux d'en sortir dans l'éducation. Voilà, si l'enfant a compris, même si derrière nous, on a une mauvaise note, après tout, c'est pas si grave. Nous, on a beaucoup d'enseignants qui sont un peu plus détendus que les témoignages de parents, là, d'enfants, dont on entend parler de leurs parents. Donc, comprendre que apprendre, voilà, ce sont des efforts, mais pas forcément désagréables, et qu'à la fin, bah, y a du plaisir derrière tout ça. On parlait des valeurs tout à l'heure. Moi, je pense que cette valeur... plaisir, entre guillemets, elle est présente dans le livre. On a vraiment tenu à en parler parce qu'il y a aussi tous ces échanges qui sont très agréables entre parents et enfants autour du savoir.
Ouais, et ça, d'ailleurs, vous l'expliquez bien parce que vous dites, un parent, quand c'est la veille de la rentrée scolaire, un parent prof, il dit « Oh là là, c'est terrible, c'est la fin des vacances, hein, t'as vu, tu vas retourner à l'école. »
Ah mais non, les messages qu'on envoie quand on dit systématiquement « Alors, content d'être en vacances ou alors pas trop dur la rentrée
ça,
qui arrive. »
Ça, c'est le parent lambda, ça.
Exactement.
Hein.
Et on ne se rend pas compte qu'on envoie un message avec qui est que l'école, c'est un mauvais moment à passer et bientôt les vacances. Donc, effectivement, il faut vachement faire
et c'est
attention
tout le contraire
à la
façon dont on pour les parents ouais. Profs, hein, le plaisir de préparer son cartable pour la rentrée scolaire, le parent le vit aussi et donc
on s'y prépare. C'est-à-dire que quand un parent prof, par exemple, le week-end, il va rentrer tôt le week-end parce qu'il va préparer sa semaine d'école. Donc, il n'y a pas l'idée que tout d'un coup, on débarque après les vacances ou après le week-end sans s'y être préparé. Quoi.
On repart au standard. On accueille au 33 1 84 22 71 71. On accueille une voisine à Abidjan. Bonjour Fatou.
Bonjour Emmanuel.
Alors Fatou, vous êtes une fille de prof ?
Oui, j'ai mon père et ma mère qui sont profs tous les deux.
De lycée ?
Prof de lycée, oui, prof d'anglais.
Mm-hmm. Et comment vous avez vécu ça alors ?
Alors, j'ai reçu une éducation, je vais dire, avec du recul presque parfait, de la part de ma mère surtout, parce que du primaire jusqu'à la fin de mon lycée, j'étais en train de réviser tous les soirs avec elle, préparer les devoirs. C'était extrêmement rigoureux. Et ça a payé parce que j'avais de très bons résultats.
Ça c'est ce que c'est sur le papier, c'est la réussite, c'est ce qu'on peut voir de l'extérieur, mais ce que vous avez vécu de l'intérieur, Fatou.
J'avais beaucoup de stress, je reconnais, parce que elle est comment dire, de caractère assez fort. Donc j'avais vraiment peur les soirs où je n'avais pas bien travaillé, elle ôtait souvent le temps, j'avais droit de faire des petites tapes. Mais quand ça se passait très bien aussi, j'avais des récompenses parce que j'adorais lire. Elle m'achetait des livres régulièrement pour me récompenser. Mais c'est vrai que me faire un petit plat parce que j'avais bien travaillé ainsi de suite, j'avais vraiment les deux extrêmes, quoi. Quand ça n'allait pas, j'avais droit à sa sévérité. Et quand ça allait bien, j'étais récompensée.
Est-ce que vous vous sentiez différente de vos camarades de classe?
Oui, parce que les autres me percevaient un peu comme privilégiée. Parce que ma mère était enseignante dans le même établissement que moi, surtout au collège. Donc, on me voyait un peu comme privilégiée. Pourtant, ce n'était pas le cas, c'était juste la préparation à la maison. Mmh.
Et, ouais. Et avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné dans votre vie, Fatou?
Je pense avoir acquis beaucoup de choses venant de là, c'est-à-dire tout ce qui est de bons résultats, que ce soit en orthographe, en rédaction et tout ça. Et je suis même un peu choquée de voir le niveau de nos enfants aujourd'hui. Mais j'essaie de faire au mieux, essayer de leur inculquer au moins la moitié de ce que j'ai reçu venant de mes parents pour pouvoir avoir un bon niveau avec eux.
Oui, parce que vous n'êtes pas enseignante.
Non, pas du tout.
D'accord, donc on inculquait au moins la moitié de ce que vous avez reçu. Ben, ça sera déjà pas mal.
Je n'ai pas la pédagogie, j'admets. Il n'y a pas tout ça qu'il y a deux jours, ma fille, j'ai eu des résultats exécrables en anglais. Je suis devenue folle. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler mon père. Quel ouvrage tu me conseilles? Il me dit, calme-toi, il ne faut pas lui porter. Mais non, je ne la touche pas, je veux comprendre. Ou bien je te l'envoie, tu la formes.
D'accord, donc je pense que vos parents n'ont pas encore pris leur retraite finalement. Merci beaucoup Fatou, merci de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Fatou évoquait les devoirs,
hein. Non, elle a aussi parlé de quelque chose dont on n'avait pas parlé pour le moment, qui est la présence des livres à la maison. Et ça, c'est une grande distinction aussi des enfants d'enseignants qui grandissent dans des foyers non seulement où il y a plus de livres autour d'eux, non seulement ils lisent plus, mais ils voient aussi plus souvent leurs parents lire. Ils vont aussi plus souvent dans les bibliothèques. Donc on leur dit pas il faut que tu sois lecteur, mais tout dans leur environnement les encourage à lire.
Si le livre est un cadeau, c'est pas une corvée de lire, ça veut dire que c'est un plaisir, ça change quand même. Tout. Mmh.
Les devoirs, vous dites dans votre livre, les enseignants passent pas tellement de temps en fait avec leurs enfants à s'occuper des devoirs.
Non, mais ils passent beaucoup plus de temps que les autres parents à travailler devant leurs enfants. Les enseignants, c'est une des professions qui ramène le plus de travail à la maison. Donc quand on est enfant d'enseignant, on voit ses parents travailler, on voit les parents sortir les cahiers, les copies, s'y mettre à heure fixe. Donc on va plus facilement développer une routine de travail quand on sait que, quand on voit un parent avoir lui-même ces habitudes-là. Et si les parents sont moins derrière leurs enfants à vérifier qu'ils ont fait leur travail, ils sont aussi beaucoup plus disponibles. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans la pièce à côté.
Rappeler l'amplitude horaire d'un enseignant, c'est quoi en France? Il est quand même beaucoup à la maison, même
s'il
travaille à la maison.
Un enseignant en élémentaire, il va avoir 24 heures de cours. Après, il est chez lui avec du travail parce qu'il faut être préparé, etc.
Il peut être aussi passer aussi plus de temps à l'école. Mais c'est un temps qui correspond plus. Enfin, c'est des temps qui sont plus calés. L'un sur l'autre.
Et donc, il a beaucoup plus de temps libre qu'un cadre ou un commerçant.
Alors, il faut pas. Si vous dites temps libre, vous allez vexer les enseignants, parce que comme ils préparent à la maison, c'est ce que disait Guillemette, c'est on est à la maison, mais on travaille. Alors, c'est une souplesse, mais ça veut dire que le dimanche soir, le week-end s'arrête plus tôt, parce qu'on travaille, on prépare ses cours pour le lundi, on ne peut pas arriver les mains dans les poches comme ça.
Et les enfants, donc, voient leurs parents travailler à la maison avec du travail intellectuel. Est-ce que le télétravail qui arrive maintenant, par exemple, pour des cadres qui peuvent travailler chez eux, est-ce que ça pourrait les aider à être davantage présents avec leurs enfants, en disant je suis dans la pièce à côté, je suis pas loin, je travaille pour mon travail, mais tu peux venir me poser des questions, comme font les profs finalement. Ça leur donnera pas la pédagogie innée dont parlait Fatou.
Mais... Et c'est montrer qu'on a c'est développé aussi le sens de l'engagement des enfants en montrant qu'on respecte les engagements de travail.
Je voudrais vous lire le message d'un enseignant qu'on n'arrive pas à joindre. Il est dans le nord de la République démocratique du Congo. Il est à Iziro, il est prof de maths en terminale, il a 3 enfants, 7 ans, 5 ans, 4 ans. Et il a posté un merveilleux message sur nos réseaux sociaux et on devait l'avoir au téléphone. Et malheureusement, il y a un problème de ligne téléphonique. Il dit, moi, je dis à mes enfants, vous êtes des scientifiques. Les gamins ont 5, 7 ans et 4 ans. Hein. L'environnement dans lequel ils évoluent est important. J'exploite tout ce qui est là pour essayer de les faire progresser. Classer des cartes, par exemple, les rouges, les noirs. Classer des bouchons. J'essaye de développer la logique. Si l'enfant ferme difficilement la porte, je lui explique comment, en changeant de position, il va mieux y arriver, il va constater qu'il doit plus ou moins pousser. Je leur explique tout ça. Pour l'histoire, la géographie, je leur raconte des histoires, j'exploite tout, même un élément dans un film. Moi-même, je leur demande qu'ils m'expliquent, ça développe leur langage. Je fais semblant de ne pas comprendre. Je sais aussi que les enfants doivent profiter également de regarder des dessins animés et de jouer. Voilà. Il a livré toute sa méthode sur Facebook et il y en a une tartine. Mais il est extraordinaire.
Ça, c'est incroyablement plus caractéristique, effectivement, parce qu'on dit oui, ils font moins les doigts que les enfants.
Oui, mais il fait tout ça.
Mais par exemple, ils vont dire si on roule à telle vitesse en voiture, à ton avis, dans combien de temps on y arrive? Ils vont dire tiens, pour telle recette de cuisine, comme c'est une recette pour 4 et qu'on est 8, est-ce que tu peux doubler les proportions? Ils vont utiliser beaucoup plus le quotidien pour valoriser les apprentissages.
La pédagogie.
Et ça, tous les parents peuvent le faire.
C'est une seconde nature. Et donc, moi, je ne suis pas enseignante, mais parce que ça fait 10 ans que je traite d'éducation à la radio, j'ai lu énormément de livres sur, je sais pas, l'acquisition du nombre, l'acquisition du langage, les premiers apprentissages en lecture. Ça déforme, en fait, en tant que parent. On se dit, ah, tiens, là, on va classer, on va se dire que les 3 cailloux qu'on voit, c'est une quantité. Alors, on dit, oui, c'est 3, on en enlève un, il n'y en a plus que 2, etc. C'est pas des exercices. En fait, on manipule des choses, on regarde, on sait que très vite transvasé dans des récipients, et ben c'est une occasion d'apprendre, d'avoir une idée sur les quantités. C'est déjà de la science. L'observation du monde, que ce sont des observations qu'on peut faire dans la nature, à la maison, partout, c'est déjà de la science. Donc oui, tous les enfants sont des scientifiques.
Ouais, avec un aspect assez ludique et décontracté. Réaction d'Estelle au message de Blanchard que j'ai lu. Quel commentaire édifiant, j'ai pris des notes. Dans 5 ans, rendez-vous pour mon coaching prof. Merci à vous de partager votre expérience. Et puis il y a Vivi aussi qui est prof à Orléans. Il dit, j'ai des enfants de prof en cours. La seule vraie différence avec les autres, c'est que ces élèves se décident plus souvent à écouter et à appliquer les consignes données en classe. La consigne, c'est une religion chez les profs.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que ça marche dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de la santé, les profs suivent plus souvent leurs prescriptions, leurs ordonnances jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire que... mais ce qui est intéressant dans ce détail, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de valeur d'exemplarité qui est beaucoup plus forte que celle du discours.
Ouais, vous êtes fille d'institutrice, vous allez les défendre jusqu'au bout.
Ce truc de lire la consigne jusqu'au bout, que personne ne fait, à part les enseignants qui écrivent des consignes et peut-être les enfants de profs, mais c'est accorder de l'importance à ce qu'on fait, en fait. Quand on fait quelque chose, on essaye de le faire sérieusement.
Il y a une fille de prof qui dit dans votre livre, dès qu'il y a 8 enfants quelque part, je me dis qu'on peut faire un atelier ludopédagogique. C'est quand même des sacrés tics professionnels. Est-ce qu'il n'y a pas une obsession de l'utilitarisme, en fait, partout? Comment rendre quelque chose qui se transforme en éducation? Tout est prétexte à éduquer.
Non, parce
un
que
peu
je...
trop. Où est le temps libre? Le vrai temps libre.
Moi, je pense que ça passe quand même énormément par le plaisir, parce qu'on l'a vu, en fait, par exemple sur la lecture, des enfants qui ont des parents qui prennent plaisir à lire vont se laisser beaucoup plus convaincre par la lecture que des enfants à qui on dit « il faut que tu lises ». Donc je pense que l'exemple du plaisir, je pense que c'est... que quand la curiosité est un plaisir, on n'a pas l'impression justement d'une culture ultra pragmatique.
C'est pas l'utilitarisme, c'est la curiosité qui est la meilleure qualité qu'on puisse développer chez un enfant. C'est aussi sortir des pièges de la consommation, parce que quand on est passif devant un écran, on est utile pour les gens qui vendent du temps de cerveau disponible. Donc c'est en fait être utile pour soi, profiter de nos sens, profiter de notre intelligence, profiter de tout ce qui est à notre disposition pour justement pas se laisser comme ça flotter dans un univers où on serait des consommateurs.
Il y a des moments où les enfants profs glandouillent, ne font rien, s'ennuient, jouent avec des petits copains.
Mais lire et regarder la nature autour de soi, c'est glandouiller, comme vous dites, aussi.
En plus, en dehors de la question pédagogique, c'est aussi, les enfants de profs sont aussi plus mis à contribution à la maison, c'est-à-dire mettre la table, débarrasser, etc. Et je pense que ça vient du fait que les enseignants dans leur classe sont habitués à ne pas pouvoir tout faire tout seuls. Ils sont toujours en train de demander tiens, un tel, est-ce que tu peux distribuer les copies? Donc, c'est l'engagement, la vie en groupe, c'est pas juste de l'utilité scolaire.
Une toute dernière question, mais vraiment en quelques secondes, parce qu'ensuite on passe à un autre sujet, Guy Medfort et Louise Touré. Moi, je me suis demandé, vous citez tellement de gens dans les élites en France qui sont enfants de profs, comment se fait-il que finalement les profs ne soient pas mieux considérés sur le plan social, salarial, par les politiques et ceux qui sont aux manettes aujourd'hui ?
Bah, c'est politique, hein. C'est comme l'hôpital public, les services publics en général, ça n'a pas bonne presse, c'est, ça donne une autre logique qui est celle qu'on n'a pas valorisé, ce qui est notre bien commun, c'est aussi l'école.
Je pense qu'il y a un vrai problème de défiance des cadres supérieurs à l'égard des enseignants de leurs enfants quand ils en ont l'image d'une profession où ils sont en vacances toute l'année, etc. Et qu'on transmet comme ça à la génération d'en dessous, dans certains milieux, un regard très critique sur les enseignants.
Merci à toutes les deux, Guillemette Faure et Louise Touré. Il faut vous lire « Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux aux éditions Les Arènes ». Dans quelques instants, c'est Marie-Rose Moreau, la chronique « Parents, enfants d'ici et d'ailleurs ».
Ce soir oui c'est cadeau. Ouais ouais sister, aujourd'hui tu ayo. Commande tout ce que tu bois, Champipi ou Magnum. Les choses marchent pour toi. Remercie là-haut. Donc voici la piste. Donne-nous des petits pas. Ce soir oui c'est cadeau. Quand même tu n'y crois pas. Donc célèbre ton succès. Le mariage c'est bientôt. Lundi c'est le travail. Remercie là-haut. Ouais, trop d'allo sista. Mais je vois bébé idioté. If you know sista. Sors de pas bébé idioté. Please allo sista. Sors de ça bébé idioté. Allo sista. Ce soir bébé idiot shine. Baby, give it to you baby. Shine.
Shine chez 7 milliards de voisins sur RFI. Et tout de suite, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, la chronique parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
Enfants d'ici et d'ailleurs, avec la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez aussi la revue transculturelle L'Autre et nous achevons cette série sur les mères. Nous avons vu qu'il était possible, oui, tout à fait possible, d'avoir plusieurs mères et que l'enfant pouvait parfaitement se repérer, si tant est qu'il ait les bonnes explications, bien que la mère soit sacrée, ça aussi vous nous l'avez bien expliqué. Et aujourd'hui, une question, est-ce qu'on apprend à devenir mère ?
Et oui, bien sûr, devenir mère, ça s'apprend, ça se construit, ça s'expérimente avec des essais-erreurs même, des tentatives, parfois des doutes, voire des conflits.
On voit bien, c'est le menu du jour. Mmh. L'instinct maternel n'existerait pas, alors on va pas relancer le vieux débat d'Elisabeth Badinter.
Non, là je crois vraiment que c'est, il n'y a plus de doute, ça n'existe pas. Il n'est pas donné une fois pour toutes, ça ne nous tombe pas du ciel, ça c'est sûr. On apprend à devenir mère et c'est un long processus en fait qui commence bien avant l'idée d'avoir un enfant, bien avant le désir d'enfant. Il s'enracine dans l'histoire de la petite fille, de la famille, du couple bien sûr, hein, le couple remanie cette question, mais aussi de la société qui a des attentes en fait par rapport aux mères ou aux futures mères. Il est tout à fait conscient, on peut même maîtriser une partie de cette question, mais il est aussi en partie intime et inconscient par exemple dans nos fantasmes de petite fille, ça contribue finalement à lorsqu'on joue à la poupée par exemple, tout ça contribue à nous apprendre progressivement à devenir mère. On apprend aussi dans la famille, on expérimente ce que sont les bébés avec ses frères et sœurs ou avec des enfants autour de soi, en observant. La culture et le monde dans lequel on vit donnent aussi des modèles maternels, bien sûr, ça on l'a souvent vu dans les chroniques, mais tout le monde n'a pas envie d'être mère et heureusement, c'est à respecter. Et bien sûr, même lorsqu'on veut être mère, on n'a pas toute envie d'être mère de la même manière, de la même façon.
Est-ce que parfois, une femme ne parvient pas à être mère ?
Eh bien oui, alors même si ça c'est un peu tabou.
Même si elle a un enfant, hein, on est bien d'accord.
Même si elle a un enfant et même si c'est tabou, s'il ne faut pas en parler. Mais à partir du moment où on dit que ça s'apprend, on dit que c'est un processus, ça c'est démontré, et c'est un devenir, et que ça commence bien avant la naissance du bébé, mais avec le bébé, lorsqu'il arrive, il accélère un peu ce processus, il nous fait devenir mère en quelque sorte. Et bien...
Quand ça ne marche pas, justement,
ce
processus.
Déjà, parfois, le processus, il tarde à se mettre en route, surtout qu'on dit parfois des choses un peu niaises, alors quand on ne le ressent pas de la même façon, du coup, on a l'impression qu'il y a un problème. Et puis, l'arrivée du bébé bouleverse aussi nos attentes, nos envies, nos désirs, nos manières d'être et de penser. Et c'est douloureux, hein, parfois. On se rend compte que c'était pas comme on avait imaginé, comme on l'avait anticipé, c'était beaucoup plus compliqué, peut-être parfois un peu plus ambivalent. Le bébé réel, il est pas du tout comme le bébé imaginaire, on est parfois même déçu. Alors on cherche une autre manière, et parfois c'est tellement intense ce bouleversement qu'on traverse des moments de doute. Alors bien sûr, il y a le fameux baby blues, hein, qui est lié à des choses à la fois biologiques mais aussi psychologiques, une sorte de petite tristesse passagère quelques jours après l'accouchement, mais normalement ça passe tout seul. Mais dans certains cas, ça passe pas. Les doutes sont plus importants, les questions, les remises en question. Et cette dépression qu'on appelle la dépression du postpartum, ça existe dans tous les pays. En Europe, on dit qu'il y a, toutes les études montrent autour de 10% des femmes qui traversent cette dépression. C'est énorme, hein, si on y pense. Et dans d'autres endroits du monde, on retrouve des chiffres, mais qui varient un petit peu, même si... On pense que c'est pas reconnu partout, parce que c'est tellement tabou parfois de dire qu'on n'y arrive pas. Donc là, il y a une vraie question, qui est aussi une question de société, et on a...
Pour aider les femmes à devenir mères.
Voilà, pour aider les femmes, et pour ne pas les laisser seules. Une des choses qui marche le mieux dans la prévention de la dépression du postpartum, c'est le fait qu'elles ne soient pas seules, et qu'on les accompagne, et qu'on les aide dans ce processus. Être mère, au fond, c'est un processus et un chemin, c'est pas un état, c'est pas donné. On a besoin de co-mère, c'est-à-dire de mère avec, qui nous aide à devenir mère et à faire grandir un enfant.
Merci à vous, Marie-Rose Moreau. Vous avez publié, entre autres, « Nos enfants demain » chez Odile Jacob. Et toutes ces chroniques et toutes les précédentes chroniques, toutes les séries sont à retrouver sur les plateformes de téléchargement en podcast « Parents, enfants d'ici et d'ailleurs ». Marie-Rose Moreau, merci à vous d'être intervenue chez 7 milliards de voisins et de nous avoir fait partager, finalement, d'avoir trouvé des réponses en pointillé pour toutes les questions que se posent les adultes avec leurs enfants.
Alors on dit quoi ?
Diarra Ndiaye, la voisine de Alors on dit quoi ? Bonjour Diarra.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux voisins et aux voisines.
Aujourd'hui, une question pour nos auditeurs. Faut-il s'intéresser à l'histoire contemporaine de l'Afrique ?
Effectivement, une bonne question, puisque l'histoire est une source inépuisable. Elle permet notamment de réinterroger et d'interpréter le passé. Et puis la discipline est aussi indispensable pour comprendre les enjeux sociétaux actuels. Alors quel regard ont les jeunes sur cette question ?
Si on juge... nécessaire, si on a jugé important d'essayer de faire une histoire générale du Sénégal avec plusieurs volumes, c'est justement pour rassembler les études qui ont été faites, en faire la synthèse et le présenter au public sénégalais. Je pense que c'est important. Ça peut leur permettre d'appréhender les racines de leur identité.
À quoi sert l'histoire contemporaine de l'Afrique ? Réponse demain dans Alors on dit quoi avec vous, Diarra ?
Rendez-vous à 10h10 TU sur l'antenne Afrique et 9h10 TU sur notre antenne Monde.
À très vite, Diarra Ndiaye. Et merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission du lundi au vendredi. Cette semaine, il y avait Juliette Brault qui nous accompagnait. Et puis bien sûr Delphine de Diadouce, Romain Dubrac, Didier Cherouz pour les auditeurs aujourd'hui. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast et sur l'appli aussi Pure Radio à la rubrique émissions. Et nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve lundi, 7 milliards de voisins. Comme chaque mois, on parlera de l'emploi et des jeunes. Si vous ne savez pas comment trouver un boulot, comment valoriser vos diplômes, comment parler de vos compétences, surtout si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience professionnelle, c'est le moment de nous appeler, de poser toutes vos questions à notre coach Farida Akadiri qui va vous conseiller pour tirer le meilleur de vous-même. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71.